être digne d'être fait, tout simplement. Et c'est pas tant que ça, finalement. On sait bien que la largeur du choix, elle est très, très illusoire. Quand je m'intéresse à Wanda, c'est finalement plus une démarche d'actrice que quoi que ce soit d'autre. C'est pas un nouveau métier, où je suis pas distributrice, où je suis pas productrice. C'est quelque chose, au fond, de moi comme actrice, que j'exprime dans le lien que j'établis avec ce film. C'est bien pour ça que je dis que c'est très, très particulier entre moi et ce film. Voilà.
Isabelle Huppert, donc, qui a permis au film Wanda de ressortir plus de 30 années après. On parlait tout à l'heure de la sécheresse, mais l'un des corollaires de cette canicule, c'est le risque d'orage. Météo France avait lancé l'alerte sur le centre-est de la France. Nouvelle alerte désormais sur le sud de l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes et l'est de la Bourgogne, avec notamment des risques de grêle.
C'était le journal de Franck Mathevon. Il est 13h31 et justement on retrouve tout de suite les prévisions de Joël Collado de Météo France.
La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
Une menace d'orage très marquée du centre nord-est cet après-midi sur toute la partie centrale de la France. En Rhône-Alpes, sur les régions du nord-est, le tonnerre grondera très souvent. Ces orages épars en fin de matinée, suivis d'une accalmie sur la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace, au fil des heures se multiplieront. Sur les départements maintenus en vigilance orange, du Cantal à la Côte d'Or, sur le Lyonnais, la Bresse, ces orages parfois violents s'accompagneront de coups de vent, d'averses de grêle. Près de la Méditerranée, le temps restera très chaud, très lourd autour du golfe du Lion. Sur la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, le ciel se chargera de nuages d'orage. Sur le sud-ouest, le risque d'orage cet après-midi sera faible. Le vent venu de l'océan maintiendra du sud de l'Aquitaine au midi toulousain un ciel très nuageux. En allant vers l'ouest ou vers le nord, soleil et nuages alterneront. De la Vendée à l'Île-de-France, les éclaircies s'imposeront. En Bretagne, Basse-Normandie, les nuages donneront quelques averses. Quant aux températures, déjà proches en fin de matinée de 34 degrés à Marseille, de 30 degrés en Corse. Elles ne dépasseront pas cet après-midi 26 degrés à Lyon, Toulouse et Strasbourg. Il fera cet après-midi 28 degrés à Paris, 20 à 23 degrés près de la Manche. Demain, seuls les Pyrénées et les régions voisines du Massif central et les Alpes conserveront encore un temps très orageux.
Consultez la météo du jour et les prévisions sur 7 jours, département, par téléphone au 0892 68 10 33 ou sur Minitel 36 15 France Inter, 34 centimes d'euros la minute.
Il est 13h33 sur France Inter, vous retrouvez Patrice Géliné dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui et jusqu'à vendredi, les rediffusions de 2000 ans d'histoire seront consacrées à 5 grands écrivains, aujourd'hui avec Marc Fumaroli, le plus grand fabuliste français, Jean de La Fontaine.
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. La Fontaine.
D'histoire. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La méfiance est mère de sûreté. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde connaît ces proverbes. Depuis plus de trois siècles, sur les bancs des écoles, des générations d'enfants les ont appris dans les fables de La Fontaine. Grâce à des animaux qui parlent, ils y ont découvert leur première leçon de morale. Et un monde où les puissants sont vaniteux, les riches sont avares et les pauvres envieux. Ils ont découvert aussi les vertus de l'amitié, de l'amour du travail, de la pitié, de la solidarité et même le goût de la liberté que La Fontaine n'a pas eu peur de mettre en vers à l'époque pourtant où triomphait la monarchie absolue, l'époque où dans l'entourage de Louis XIV se trouvaient quelques-uns des plus grands noms de l'art et de la littérature française.
Messieurs, quand je nous vois, lorsque je nous regarde, Mansart, Turenne, Colbert, Racine, Boileau lui-même, et Vauban, et Louvois, et Monsieur de Meaux que l'on entend, et vous, Molière, qu'on adore, et La Fontaine qu'on relit. Je m'émeus en pensant que nous vivons à la même heure. Et j'ai l'impression, ne nous ayant jamais encore vus tous ensemble, oui, j'ai l'impression que c'est nous. Louis XIV.
Maroli, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler avec vous d'un homme dont tout le monde connaît au moins une fable, mais qui est beaucoup moins connu que son œuvre, La Fontaine, auquel vous avez consacré un livre il y a 5 ans, Le Poète et le Roi. Alors le poète, c'est évidemment La Fontaine. Le Roi, c'est Louis XIV, que La Fontaine, je crois, n'a jamais rencontré. Il n'a jamais, dites-vous, été à Versailles.
Il n'a pas pu aller à Versailles parce que, d'abord... Enfin, il a été à Versailles, oui, mais il avait un petit Versailles, il n'a pas connu le grand Versailles, et d'autre part, les valeurs qu'a connu son protecteur Fouquet ont fait de lui, dès 1661, un disgracié que le roi n'avait pas envie de voir. Il n'a donc jamais été... comme le texte que l'on vient d'entendre pourrait le suggérer, un des ornements, si j'ose dire, de la cour du roi. N'oublions pas de toute façon que le roi n'est entré définitivement à Versailles avec son gouvernement et avec sa cour qu'en 1683. C'est-à-dire tout à fait à la fin de la vie de La Fontaine.
Mais sans voir La Fontaine, alors il était pourtant extrêmement connu à cause de ses fables. Déjà en 1668 sont publiées les premières fables. Cela dit, il les a écrites très tard. Il a même mis du temps à écrire tout court. Hein. Il est né, il faut le rappeler, en 1621 à Château-Thierry. Et il ne commence à écrire que à passer la trentaine, Maroli.
Oui, oui, oui. Même à 40 ans. Oui. On a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est développé lentement, secrètement, qui a, je crois, une jeunesse extrêmement voluptueuse.
Oh, il a voulu entrer dans les ordres aussi.
Et oui, mais ça n'a pas duré. Mm. Qui a eu aussi une jeunesse studieuse, les deux à la fois, et qui ne s'est vraiment résigné à écrire que parce que son ami Pélisson, qui était entré au service de Fouquet, justement, l'a incité à devenir le poète personnel du futur éventuel Premier ministre.
Est-ce qu'il n'était pas un peu paresseux? Il a eu cette formule très jolie, dit « j'ai passé la moitié de ma vie à dormir et l'autre à ne rien faire ».
Je crois qu'effectivement, il y a chez La Fontaine une veine épicurienne extrêmement forte, qui est d'ailleurs une veine française, on y reviendra peut-être. Souvenons-nous que dès le Moyen-Âge, il y a cette veine dans la littérature française. Elle devient évidente avec Rabelais, elle devient évidente avec Montaigne, et elle va devenir triomphante au XVIIIe siècle, qui a adoré La Fontaine.
En tout cas, La Fontaine écrit sa première œuvre importante en 1658 à Denis, qui est dédiée au surintendant Fouquet, qui va devenir son mécène et auprès duquel La Fontaine va publier ses premières œuvres importantes.
Monsieur Fouquet, ayant dit que je lui devais donner pension pour le soin qu'il prenait de faire valoir mes vers, son souvenir, qui me comble de joie, sera payé tout en belle monnaie de madrigaux, ballades, sonnets, stances, rondeaux et vers de toute guise. Mais, au risque de trop solliciter l'inconstance et l'inquiétude qui me sont si naturelles, je me pourvus d'une épitaphe. L'épitaphe d'un paresseux.
J'en sens dans la peau, il est venu, quand il était venu, quand j'en ai le fond, un peu de revenu, 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 j'en sens dans la peau, il est venu, quand il était venu, quand j'en ai le fond, un peu de revenu, un peu de revenu,
alors c'était un des nombreux textes de La Fontaine, bien avant ses fables, l'épitaphe d'un paresseux mis en musique par Couperin. Hein, je cite, Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu. Alors le revenu de La Fontaine, Marc Fumaroli, à partir de 1659, c'est ce que lui verse Fouquet, c'est ce qu'on appelle la pension poétique.
Ça a duré très peu de temps. Et ensuite, le malheureux s'est retrouvé avec une fortune personnelle en déclin. Mm. Et il a constamment vécu un peu à la remorque de protecteurs privés qui l'aimait beaucoup, mais dont la fortune
était moins importante
non,
que Fouquet.
Non, puis surtout que les relations avec eux n'étaient pas toujours au beau fixe.
C'est extraordinaire d'ailleurs, l'entourage de Fouquet, il n'y avait pas que La Fontaine, il y avait Scarron, il y avait Perrault, il y avait Corneille, il y avait Molière, il s'entourait vraiment d'une élite extraordinaire.
Ah, c'est-à-dire
il voulait épater le roi, en fait, il voulait épater Louis XIV, c'est bien
connu. Moi je ne pense pas, je suis très très favorable à Fouquet, je pense que c'était un homme tout à fait supérieur, qui était de plein pied avec ses artistes, avec ses écrivains, et qui leur a donné l'impression que il y allait avoir en France enfin un gouvernement aimant les arts et donnant aux artistes, aux écrivains, aux poètes une place inédite.
Et mais c'est pas à Fouquet de le dire, ça. Il est surintendant du roi, c'est pas le roi, or il s'est pris un peu pour le roi quand même.
Mais le roi lui-même n'avait absolument aucun don pour cela. Mmh. Ce n'est qu'après la disgrâce de Fouquet que le roi a compris. Quel prestige extraordinaire Fouquet avait gagné à ses amitiés, à cet entourage, à cette espèce d'aura dont il s'était paré, et le roi a fait un effort pour conquérir Molière, il l'a fait sans difficulté, pour s'attirer un peu plus tard Boileau, mais il faut bien reconnaître que les relations de roi à poète ou à artiste ne pouvait pas être celle qu'avait eu Fouquet.
Fouquet qui payait donc La Fontaine pour écrire des poèmes à sa gloire.
Oh, oui, mais enfin, ces poèmes n'étaient pas publiés. Cela restait tout à fait entre eux. Je crois qu'il y avait beaucoup de charme dans cette relation, et c'est ce que La Fontaine a toujours regretté.
En tout cas, il a écrit quand même à l'époque de Fouquet. Il a failli le suivre dans la disgrâce. Fouquet a été, faut le rappeler, enfermé par.
Il l'a même suivi puisqu'il a été obligé de quitter Paris et d'aller pendant quelque temps dans le Limousin, occasion d'écrire cette merveilleuse suite de lettres qu'on a appelé « Le voyage en Limousin » et que je commente longuement dans mon livre.
Alors, il a écrit beaucoup d'autres choses auprès d'autres protecteurs. Après Fouquet, ce sera la duchesse d'Orléans, auprès de laquelle, donc, La Fontaine continue d'écrire, comme il le faisait auprès de Fouquet, des textes beaucoup moins connus que les fables et qu'a sélectionné pour nous Stéphanie Duncan.
Oui, on connaît surtout les fables de La Fontaine, mais il y a d'autres merveilles. Par exemple, le songe de Vaux qu'il écrit en l'honneur du château de Fouquet et de son jardin, si beau qu'il semble tenir du rêve ou de l'apparition. Morphée, écrit La Fontaine, me fit voir en songe un palais magnifique, des grottes, des canaux, un superbe portique, des lieux que pour leur beauté j'aurais pu croire enchantés, si Vaux n'était point au monde. Ils étaient tels qu'au soleil ne s'offre sortir de l'onde rien que Vaux qui soit pareil. Dans ce poème, gambade des nymphes, on voit même un saumon, un esturgeon parler. En effet, avant l'écriture des fables déjà, on est dans l'univers de la métamorphose. Ce que tu vois d'animaux et d'humains troque sans cesse et devient autre chose. Toute âme passe en différentes mains. Telle est la loi de la métempsychose. Autre merveille de La Fontaine, que je n'avais jamais lu, je dois reconnaître, les contes, ces fameux contes d'inspiration plus rabelaisienne, on pourrait dire. Les héros ici ne sont pas des nymphes, mais des commères, des maris cocus et des curés un peu paillards. Alors, ces contes sont écrits en vers, dans un style très alerte, c'est très drôle. Un exemple, comment l'esprit vient aux filles. Est-ce que vous le savez, Patrice? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille un peu niaise. Sa mère se plaint qu'elle n'a pas d'esprit. Lise, c'est le nom de cette jeune fille, décide alors d'aller demander au père Bonaventure qui lui vende de l'esprit. Le moine, généreusement, alors l'emmène dans sa cellule. Mon révérend la jette sur un lit, veut la baiser. La pauvrette recule un peu la tête et l'innocente dit « Quoi, c'est ainsi qu'on donne de l'esprit ?» Et vraiment, oui, repart sa révérence. Puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi? Vraiment, oui. Comment donc? La belle prend le tout en patience. Il suit sa pointe et d'encore en encore, toujours l'esprit s'insinue et s'avance, tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. Bonaventure, à 6 moments de là, donne d'esprit une seconde dose. Ce ne fut tout. Une autre succéda. La charité du beau-père était grande. À ceux qui jugeraient tout cela bien immoral, les censeurs notamment, La Fontaine leur demande la simple liberté d'écrire des contes.
Comptons, dit-il, mais comptons bien, c'est le point principal, c'est tout. À cela près, censeur, je vous conseille de dormir comme moi sur l'une et l'autre oreille. Censurez tant qu'il vous plaira méchants vers et phrases méchantes, mais pour bon tour, laissez-les là. Ce sont choses indifférentes. Je n'y vois rien de périlleux.
On comprend quand même, Marc Fumaroli, qu'il ait pu être inquiété par la censure. On ignore, on oublie totalement qu'avant d'écrire les fables, il a écrit vraiment des textes cochons.
Cochons, je
crois que c'est sourire d'ailleurs.
C'est très exagéré. C'est très exagéré.
Leste,
parce
disons.
Que c'est leste, mais ça n'a rien à voir avec les textes de pornographes dont nous sommes débordés. Et je vais vous lire, moi aussi, un petit texte de La Fontaine qui explique quelle est la grâce de ces récits et comment, en somme, ici, l'érotisme n'a rien à voir avec l'érotisme littéraire ou poétique, n'a rien à voir avec la pornographie. Qui pense finement et s'exprime avec grâce, fait tout passer, car tout passe. Je l'ai 100 fois éprouvé. Quand le mot est bien trouvé, le sexe, en sa faveur, à la chose pardonne. Ce n'est plus elle alors, c'est elle encore pourtant. Vous ne faites rougir personne et tout le monde vous entend.
Très joli plaidoyer pour La Fontaine. Cela dit quand même, des textes comme celui qu'on a entendu tout à l'heure, hein, qui sont plus lestes que celui que vous venez de lire, Marc Fumaroli, on comprend que ça ait pu choquer une institution dont je ne dirais pas de mal, puisque vous en êtes membre, qui est l'Académie française. Elle a traîné avant de le recevoir, La Fontaine.
Oh, je crois que ça n'a rien à voir.
Non.
Beaucoup d'académiciens de l'époque avaient écrit des choses du même tonneau. Non, ce qui a retardé l'entrée de La Fontaine à l'Académie, c'est la disgrâce qu'il subissait de la part de Louis XIV, et surtout de Colbert. À la mort de Colbert, il a pu entrer à l'Académie.
Et puis cela dit, il y est entré après avoir écrit l'œuvre pour laquelle La Fontaine, justement, est aussi entrée dans l'histoire de la littérature, Marc Fumaroli, les fables qui, 3 siècles après lui, inspirent encore Charles Trenet et Django Reinhardt.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la criée famine chez la fourmi sa voisine. La priante lui prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, lutte-t-elle à cette empreinte? Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, allez, dansez maintenant.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jean de La Fontaine avec Marc Fumaroli.
C'est joli hein, cette adaptation moderne de fables.
C'est tellement, il y a un accord vraiment profond entre l'ingénuité fine et spirituelle de Trenet et celle de La Fontaine. Là, il y a une continuité étonnante.
Alors c'est la plus célèbre ou une des plus célèbres fables de
Fontaine. C'est la première.
La cigale et la fourmi, donc de chantée par Trenet, accompagnée par Django Reinhardt. Alors cela dit, La Fontaine lui-même avait emprunté, s'était inspiré d'un genre très ancien. La fable, c'est aussi vieux que la littérature, Marc Fumaroli.
Oui, au fond, on se demande si Homère n'est pas si Ésope,
oui.
Celui qui est le premier à avoir écrit des fables, ou en tout cas récité des fables dans la Grèce antique,
au VIe siècle avant
Jésus-Christ, dans notre tradition à nous, n'est pas contemporain d'Homère. Donc c'est très ancien. D'autre part, c'est universel. On trouve des fables en Inde, et d'ailleurs au XVIIe siècle, La Fontaine pouvait connaître la tradition indienne qu'on mettait sous le nom de Pilpay. On en trouve en Iran. Et La Fontaine connaissait aussi indirectement, enfin, la tradition iranienne. Et il a d'ailleurs, il s'est inspiré de plusieurs fables de ces traditions orientales. Donc c'est un genre, mais c'est un, ça n'est pas un genre littéraire. C'est-à-dire que c'est un genre oral, en prose, qui peut gonfler selon les récitants. On peut augmenter, on peut restreindre une fable. Le propre de La Fontaine, il a eu quelques prédécesseurs à la Renaissance, mais jamais aussi brillants que lui, c'est de donner à la fable une forme littéraire extrêmement raffinée et qui en fait, tout à coup, un genre poétique aussi aussi remarquable et aussi subtil que peut l'être l'idylle ou l'ode.
Alors il renouvelle effectivement la fable avec son premier recueil de 120 fables, écrites à partir de 1668 et dédiées au fils de Louis XIV.
À Monseigneur le Dauphin. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures. Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.
Alors c'était la dédicace explicative des fables de La Fontaine, lue par Serge Reggiani, que vous avez peut-être connu, Marc Fumaroli.
Oui, oui.
Fable dédiée donc au dauphin ou au précepteur du dauphin. En fait, il fait un travail de courtisan. Il cherche à rentrer en grâce auprès de Louis XIV en écrivant
ça. Dans une certaine mesure, oui, mais il savait très bien qu'il ne rentrerait pas en grâce. Il n'empêche que, s'adressant au dauphin, grâce au président de Persigny qui était son ami et qui donc lui a permis cette faveur, il faisait du fils du roi le prédécesseur de tous les enfants de France qui désormais, jusqu'à nos jours, auront appris les fables de La Fontaine par cœur, les auront lues, les auront commentées en classe et auront fait de ces fables un des textes, je dirais, essentiels, fondamentaux de la tradition littéraire et de la langue française. Et je crois que c'est un geste, s'il ne l'avait pas fait, qui aurait peut-être diminué en quelque sorte l'éclat futur des fables. Et d'ailleurs, il va reprendre ce geste pour le 12e livre des fables, qu'il va dédier au duc de Bourgogne, c'est-à-dire au futur roi, au fils du dauphin, auquel il avait dédié des fables en 68.
C'est un travail de moraliste, hein. À chaque fin de fable, il y a toujours un petit proverbe qui est destiné à enseigner la morale aux enfants.
Elle ne coïncide pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est avant tout des récits dont le charme réside dans l'art de narrer. Et puis, il y a, comme vous dites, une moralité, mais cette moralité, elle n'est pas nécessairement liée et intimement au récit. C'est destiné à devenir une maxime, un proverbe. Et d'ailleurs, le nombre de phrases de La Fontaine, de vers de La Fontaine qui sont restés dans la langue, vous en avez cité d'ailleurs au début, est extraordinaire. Oui. C'est un de ceux qui sont restés le plus dans la mémoire nationale.
Il y en a que j'ai pas cité, Marc Fumaroli, et dont on dit qu'ils étaient quand même assez subversifs pour leur temps. Je prends par exemple la moralité des animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il y a la morale des obsèques de la lionne. Oui. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, ils gobront l'appât, vous serez leur ami. Hein. C'est le roi, ou au moins la cour, qu'il critique. C'est un écrivain subversif aussi.
Subversif, je ne sais pas très bien ce que signifie le mot, on l'emploie à tout bout de champ maintenant, mais il n'y a pas de doute que, du fait que La Fontaine écrit sous la protection, en quelque sorte, de l'imitation de l'Antiquité, comme d'ailleurs la plupart des écrivains de son époque, il a une marge de manœuvre vis-à-vis des autorités officielles. Ce n'est pas tellement lui qui parle là, si vous voulez, c'est la tradition littéraire. Et grâce à cela, il peut dire des choses en plein régime absolutiste que nous, peut-être aujourd'hui, nous nous retiendrions de dire. Il est d'une cruauté vis-à-vis des puissants, vis-à-vis des prétentieux, vis-à-vis des, des orgueilleux, des vaniteux, des gens qui ont le pouvoir, qui nous laissent pantois. Et je crois que c'est une des merveilles de ce poète, de même d'ailleurs que pour d'autres, comme pour Molière, et même dans une certaine mesure pour Racine, ce sont des poètes qui, abrités derrière la tradition littéraire, peuvent se permettre d'être vis-à-vis du pouvoir beaucoup plus libres qu'on ne l'est dans des régimes officiellement plus libre.
Et puis abrité aussi derrière les animaux, hein, parce que le
oui, alors roi, les c'est animaux,
le lion,
c'est
tout le monde le reconnaît.
Les animaux, c'est aussi une élégante protection.
Alors cela dit, c'était quand même, alors bon, vous n'aimez pas le mot subversif, mais en disant qu'il critique quand même
critique.
La cour.
Je crois que critique
cour,
serait meilleur.
Et c'est quand même en même temps un conservateur. Vous vous rappelez qu'à la fin de sa vie, il prend parti dans cette querelle célèbre de l'époque pour les anciens contre les modernes. Il se convertit, il renie ses comptes que nous a lu, dont Stéphane nous a lu des extraits. Pour pouvoir, avant de mourir, hein, on a même découvert, quand il est mort, en 1695, on a découvert qu'il portait un cilice oui. sous ses vêtements.
Oui, c'est vrai, mais je crois que les deux aspects du personnage ne sont pas contradictoires, ils sont très fréquents pendant toute la durée de l'Ancien Régime. Au fond, toute la France aimait ses rois, aimait le royaume, aimer la forme traditionnelle dans laquelle, depuis des siècles et des siècles, la France avait été devenue la France, et en même temps, on était tellement sûr que tout cela ne changerait jamais beaucoup, qu'on pouvait se permettre d'aller très loin, d'une manière féroce, contre les tenants provisoires, si vous voulez, des différentes fonctions du royaume. Et quand on lit, par exemple, les chansons qu'on chantait à Paris, sous Louis XIV, et à plus forte raison sous Louis XV, on est étonné de la violence. Même le Canard enchaîné paraît extrêmement modéré comparé à cela.
Qu'est-ce qui fait, Marc Fumaroli, que plus de trois siècles après sa mort, il est mort en 1695, on lise encore les fables de La Fontaine?
D'abord parce que je crois que c'est un genre court, extrêmement brillant, qui se fixe très facilement dans la mémoire, qui est comme une espèce de théâtre de poche, comme je le dis quelque part dans mon livre, et que les enfants, comme les adultes, et les adultes se souvenant d'avoir été enfants, ont toujours goûté, aimé, et donc retenu. Et d'autre part, il y a chez La Fontaine, je crois, des traits profondément français, qui, même si les choses changent de siècle en siècle, se sont, dans une certaine mesure, maintenus, et qu'il offre aux Français, en général, un miroir où ils se reconnaissent volontiers. Par exemple, ils aiment, à mon avis, la France est épicurienne, se reconnaît dans l'épicurisme de La Fontaine.
Merci Marc Fumaroli. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Le poète et le roi, Jean de La Fontaine en son siècle, publié aux éditions De Fallois. À lire également La Fontaine et les artistes, un livre de Gérard Grévrand, édité par La Renaissance du Livre. Enfin, Les fables de La Fontaine, illustrées par Gustave Doré, édité chez Tana Éditions. Je signale également que vous pouvez entendre plusieurs fables de La Fontaine, lues par des comédiens de la Comédie Française, dans une anthologie de la poésie de langue française du Moyen-Âge au début du XXe siècle, une anthologie éditée en CD par Frémaux et Associés. Vous avez pu entendre un extrait du film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, disponible en cassette chez René Château Vidéo. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Bézikian et Olivier Riotor. Documentation, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphane.